Et toujours dans la France Bouge, chaque jour, nous découvrons une marque, un produit ou un endroit qui fait la fierté de notre patrimoine français. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un organisme français qui existe depuis 1949. On se replace dans l'époque, nous sommes en pleine transformation et reconstruction de la France après la guerre. C'était la première structure de formation pour les adultes en France. Ça s'appelle l'AFPA. Bonjour Pascal Dartois.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'AFPA. Quel chemin parcouru depuis 1949. Aujourd'hui, ce sont 7000 salariés, des formateurs, des psychologues. Vous êtes présents sur l'ensemble des territoires, une réelle action locale. Et vous accompagnez, vous recevez 200 000 personnes par an. L'AFPA, vous vous considérez comme une sorte de tiers de confiance. C'est quoi le tiers de confiance quand on cherche un emploi ?
Alors, le tiers de confiance, quand on prépare les compétences à grandir, et voilà, ça fait le lien avec Cédric, c'est de pouvoir fluidifier, expliquer la complexité du système français. C'est-à-dire que nous, le tiers de confiance, il prend à sa charge la complexité du système pour que les personnes puissent avoir une information fiable.
C'est quoi la complexité ? Qu'est-ce qui est difficile ?
La complexité, les tuyaux de la formation professionnelle sont assez compliqués parce qu'il y a différents financeurs. Il y a l'État, les régions, Pôle emploi. Quand vous êtes une personne qui cherche à faire financer sa formation, c'est souvent très compliqué de savoir qui va financer mon parcours, comment je vais pouvoir avoir une aide pour mon logement, comment je vais pouvoir avoir une aide pour ma mobilité, comment je vais pouvoir faire garder mes enfants, etc. Donc en fait, c'est différentes portes qui sont ouvertes, mais le tiers de confiance, il est en capacité, effectivement, de répondre et de pouvoir orienter facilement la personne. Et c'est pour ça que l'AFPA a beaucoup changé. Il s'est proposé, en fait, depuis très peu de temps, depuis 2017, de mettre en place, au-delà de son action d'organisme de formation, d'utiliser ces 9 millions de mètres carrés de foncier pour proposer à tous les acteurs de l'insertion, de l'emploi et de la formation, de créer un écosystème de tiers de confiance qui peuvent fluidifier le parcours professionnel de la personne.
Parce que là, c'est là où vous êtes vraiment indispensable. Vous êtes sur des publics qui sont loin, voire parfois éloignés du marché de l'emploi. Et c'est en cela où c'est capital. Quand vous dites, on ne sait pas toujours à quelle aide on a le droit, alors c'est déjà
surtout
pas simple
quand on
est déjà très calé. Mais alors, quand on est un peu loin de tout ça, ça devient extrêmement compliqué.
Quand on est un peu loin, c'est très compliqué. Et puis, on ne comprend absolument pas ce qui peut être dit sur les sites internet qui sont très utiles pour les personnes autonomes. Mais par exemple, quand on parle de branche professionnelle, quand on parle de certification, les personnes qui sont éloignées de ces mots-là, de cette compréhension-là, n'arrivent pas du tout à comprendre ce que c'est, par exemple, un bloc de compétences. Voilà. Donc, il faut accompagner la personne à lui expliquer ce que ça représente. Et puis, surtout, il faut lui montrer que tout à l'heure on parlait des personnes qui s'auto-censuraient par rapport à des possibilités
d'emploi. Mais c'est le cas, vous avez un public, Emmanuel le disait, de personnes qui sont des chômeurs de longue durée, certains sont au RSA depuis plusieurs années. Donc vous prenez le temps de les accompagner, vous les aider à ne pas s'auto-censurer, leur dire mais finalement si t'as un rêve, tu peux y aller, c'est ça en gros.
Alors c'est ça en gros, et c'est ça depuis les dernières lois de la formation, 2014 et 2018, nous ont beaucoup aidés, parce que maintenant dans la définition de l'action de formation, avant l'action de formation, c'était du face-à-face pédagogique. Aujourd'hui, c'est aussi tous les parcours d'accompagnement en amont et en aval, et ça c'est extrêmement important, parce que les conseils régionaux, Pôle emploi, tous les financeurs de l'État financent cette partie d'accompagnement et nous permettent effectivement de prendre du temps pour accompagner les personnes qui sont plus éloignés.
Là, on le dit depuis le début de l'émission, on manque de personnes dans le web, dans la tech. Alors oui, ça demande des compétences, mais parfois pas tant que ça, et beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer, en tout cas beaucoup moins compliqué à acquérir que ce que l'on peut imaginer. Même des gens loin de l'emploi, vous les envoyez vers ces métiers où on est sûr à la sortie d'être embauché.
Alors, on les envoie vers ces métiers, bien entendu, on travaille beaucoup avec les entreprises et les branches professionnelles sur la dimension d'attractivité de l'emploi. Mais il ne faut pas oublier que la personne, et surtout depuis les dernières lois de la formation, elle est acteur de son parcours. Donc vous et chaque personne, qu'elle soit éloignée ou pas, a besoin de donner du sens à sa vie.
Et peut-être un point très important, puisqu'une partie de notre compte de formation s'arrête à la fin juin. Donc attention, ceux qui veulent utiliser leur argent, il faut le faire Maintenant, c'est un message, je pense, qu'il faut peut-être envoyer aux gens, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien conscient de cela.
Tout à fait, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'il faut, tenir compte, effectivement, de ce que la personne veut faire. Ce n'est pas parce qu'il manque de l'emploi, alors on va dire, dans le bâtiment, ou, que la personne que vous allez accueillir a forcément envie d'aller vers ces métiers-là. Ouais. Donc, en fait, ça se construit. Et ça se construit, j'entendais tout à l'heure, ça se construit en allant visiter des entreprises, en allant à la rencontre d'eux. Et je crois qu'au moment où le digital se développe, l'AFPA doit rester une plateforme physique de rencontre. Bien c'est sûr. Ça qui est important sur un territoire, c'est de faire rencontrer des demandeurs et des entreprises qui recrutent.
Alors notamment les jeunes, parce que vous avez eu une mission extrêmement importante dans le cadre de la solution Un jeune, une solution. Ça s'arrête officiellement là, fin mai, je crois le 31 mai si je ne dis pas d'annerie. Vous pensez que ça va être repoussé un peu?
Alors non, ça ne s'arrête pas fin mai. Alors aujourd'hui, c'est une expérimentation dans le cadre du plan de relance. Mmh. On nous a confié effectivement la charge très importante d'accompagner les jeunes décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans.
Les 16 à 18 ans, je crois que vous, il y en a environ 35 000. Hein, le programme est dédié.
L'objectif est 35 000.
Décrocheurs. Comment vous travaillez avec ces jeunes? Je crois que là, vous les suivez pendant 13 semaines. Mmh. Hein, et ça dépasse, enfin moi, quand j'ai regardé, ça dépasse le cadre de la formation, puisque vous suivez leur bonne santé physique, leur bonne santé psychique. Vous essayez aussi de leur redonner confiance, c'est ça? Ça passe aussi par là?
C'est le principal job que l'on fait avec eux, en fait. Hein. Quand on les reçoit, ils ont décroché. Souvent, ils ont arrêté leur scolarité à partir de la troisième. Ils n'ont même pas le brevet ou en seconde. Et donc, ils ont tout à apprendre. Et on est parti d'un a priori, en fait, qui est à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, tout est possible. Mais tout est possible. C'est-à-dire que même le retour en cursus scolaire, et en fait, on travaille évidemment sur toutes les difficultés qui ont créé ce décrochage. Mmh. Alors, certaines sont plus faciles que d'autres, mais vous avez des problématiques de type phobie scolaire. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré un jeune garçon qui ne voulait pas aller à l'école, alors qu'il était très bien encadré par ses parents, mais il ne voulait plus entendre parler de l'école. Il en était malade.
Un rejet total.
Rejet total. Il y a aussi des enfants qui sont en grosse difficulté
familiale. Et vous les accompagnez sur tous les plans.
Jérémy Cléda, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle, site de recrutement pour l'emploi. Vous êtes notre grand témoin depuis le début de cette émission. Alors, on entend parler de beaucoup de choses, là, de la reconversion, de réussir à faire revenir des publics plus compliqués. Vous pourriez aider, vous aussi, justement, à aller chercher ces publics qui sont plus loin. Est-ce que vous êtes un média spécialiste de l'emploi? Est-ce que vous essayez aussi de vous adapter et de faire comprendre toutes les problématiques de ce métier de l'emploi à tous ces gens qui sont peut-être un poil plus loin?
On essaye, je pense que ça fait partie de la mission qu'on s'est fixée pour Welcome. Ça revient un peu à la conviction de départ. Notre conviction de départ, c'était que une des problématiques de l'accès à l'emploi, c'est le manque d'information qui est à tous les niveaux. Et en fait, d'ailleurs, il peut concerner des gens de familles éduquées ou de ceux qui le sont.
Cette fameuse complexité française dont parlait Madame Darfois.
On a la chance de voir d'autres complexités dans d'autres pays. Vous apercevez que c'est un mal général, mondial. Donc je ne tirerai pas boulet rouge sur notre pays. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de donner de l'information à tous les niveaux, de faire comprendre les métiers. Et après, sur des choses concrètes, ce qui est vrai, ce qui est flagrant, c'est qu'en fait, le manque de cadre qu'on voit en amont, il se reflète en aval et c'est les fameuses différences qu'on voit à l'embauche. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les codes? Est-ce que vous avez la possibilité de faire un entretien dans des bonnes conditions? Et nous, on le voit par exemple, et peut-être pour en dire un mot, ces 12 derniers mois, je trouve, ont été catastrophiques sur l'inclusion et l'accès à l'emploi.
Parce que télétravail, recrutement sur Zoom ou sur Teams ou un autre logiciel qui nous amuse tant.
Est-ce que toutes les familles ont un accès à Internet et deux téléphones ou deux ordi pour faire un entretien à distance de bonne qualité? Non. Est-ce que tout le monde sait se connecter à Zoom? Donc, pour nous, par exemple, autour de la table, ça paraît évident.
Je vous assure, Elisabeth, on n'est pas les surdoués en la matière. Et
quand
ça
on a des réunions Teams, en général, nous, c'est pas ça. Ça transforme en téléphone.
Bon, en tout cas, vous allez y arriver, ou mieux surtout, vous avez une personne qui va vous aider. Voilà, il y a plein de gens
qui sont très loin de tout ça.
Et c'est un vrai sujet.
Pascal Dartois, justement, les entreprises, elles jouent le jeu là en ce moment.
Bien sûr, parce que effectivement, ça, on rejoint la difficulté de certaines entreprises qui ont on parle beaucoup des métiers en tension. Moi, je préfère parler des métiers qui recrutent. Et effectivement, il y a des métiers pour lesquels il y a des grosses difficultés de recrutement. Donc, l'annonce,
lesquels,
je crois
par
que
exemple
le, Dans le bâtiment, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi dans l'industrie.
Vous, c'est un de vos principaux challenges, hein, c'est de relancer cette industrie avec les formations.
On a en fait ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'accompagner aussi des entreprises qui souhaitent relocaliser ou localiser leur entreprise sur des territoires.
Il va falloir ouvrir une page sur Welcome to the Jungle.
Mais exactement.
Il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à faire entre Welcome to the Jungle et vous, l'AFPA. Merci à vous, Pascal D'Artois. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.